Nova.
Nova.
Les grandes villes sont favorables à la distraction que nous appelons dérive.
Salut à tous, on part à la dérive pour la DER de la saison avec le saxophoniste Raphaël Imbert.
La psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, agissant directement sur le comportement affectif des individus.
À la dérive avec Raphaël Imbert, on flâne un saxophone dans le dos, au bal Blomé, chez les francs-maçons et sur une péniche écolo. On se rend compte que le jazz est partout, que sa définition est nulle part, qu'il est primitif et spirituel, politique, séditieux, révolutionnaire, sexy. Raphaël Imbert et son complice Johan Fargeau réveillent les soirées du 15e arrondissement avec les mille et une nuits du jazz, des concerts, conférences où l'on convoque les plus grandes figures du jazz. Ici, au bal Blomé, sous le regard complice de Josephine Baker, de Duke Ellington, de John Coltrane, Paris swing et souffle un nouvel air dans les pas de Raphaël Imbert.
À la dérive, avec Aurélie Sfez.
L'esprit du jazz, et c'est là sa singulière modernité, doit s'entendre au double sens du mot spirituel, à la fois sacré et mondain. Autrement dit, l'esprit du jazz s'exprime souvent chez les musiciens par un sens de l'humour légendaire. Avant d'être religieux, métaphysique ou mystique, le spirituel dans le jazz est intimement humoristique. C'est une affaire de bons mots, de bon esprit et de confidences volontiers déstabilisantes.
Je suis rue Blomé dans le 15e arrondissement à Paris et j'ai rendez-vous avec le saxophoniste Raphaël Imbert au bien nommé Bal Blomé.
C'est rare de venir si tôt au bal Blomé, mais voilà, c'est très bien.
J'aime bien, moi, les endroits de fête de jour.
C'est un truc
bizarre.
On ne connaît un endroit que quand on l'a vu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc c'est un lieu de vie pour moi très important, puis c'est un lieu historique aussi très important. Je tenais à ce qu'on commence notre dérive, si vous le voulez bien, par cet endroit, parce qu'il représente beaucoup de choses en fait.
Le bal Blomé, il a eu deux appellations, bal Blomé et bal Nègre.
Tout à fait, c'était une appellation qui d'ailleurs existait dès la naissance, parce que c'était un lieu assez informel au départ. Hein. C'est un lieu qui est d'abord un lieu politique. C'était le lieu d'un député antillais qui voulait en faire son local de politique, de meeting et tout ça. Sauf que ça marchait pas. Enfin, je veux dire, il y avait une communauté, une grosse communauté afro-antillaise à Paris et particulièrement dans le quartier. On est au début des années 20. Montparnasse, c'est un petit peu le centre du monde à ce moment-là. Hein.
On vient s'en canailler ici, quoi.
Bah, alors, on vient non seulement s'en canailler à Montparnasse, mais on vient terminer la soirée et la nuit au bal Nègre et au bal Blomé à partir de cette appellation qui a été donnée par Robert Desnos, qui habitait à 20 mètres. On passera sans doute devant le parc qui maintenant marque le lieu de ce lieu de résidence de tous les surréalistes de l'époque. Donc c'était un lieu de vie, d'avant-garde, d'échange, et ça devient d'ailleurs le lieu des rencontres et pour moi le lieu de la créolisation en fait. Tout le monde vient ici, il y a beaucoup de légendes d'ailleurs. Je sais que le biographe d'Édouard Glissant, grand philosophe jouant de la créolisation, parle d'Édouard Glissant qui vient danser ici au début à la fin des années 40. Il y a même une légende.
André Breton,
donc on parle de Desnos, Miro, il y a des sculptures de Miro juste à côté. Puis ça devient surtout le lieu de référence de Josephine Baker.
C'est ce que j'allais vous dire parce qu'on la voit derrière vous.
Tout à fait.
Toute souriante, ce portrait qui est assez connu de Josephine Baker. Elle a ses grands yeux malicieux qui regardent vers la gauche, son grand sourire, sa coiffure plaquée, sa petite mèche en forme de virgule.
Tout à fait.
C'est elle.
Bah, c'est extrêmement émouvant en fait de vivre dans ce lieu qui a fait connaître cet immense artiste.
J'ai deux amours, mon pays et Paris, par toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à moi volunier, ceux qui m'ont Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays est Paris.
Il y a quelqu'un qui est arrivé là, se poser sur le zin. Bonjour Guillaume Cornu.
Salut Oli.
Salut, vous êtes le boss. du bal Blomé.
Ouais, ouais.
Pourquoi vous avez repris ce lieu? Vous avez choisi de reprendre ce lieu qui a eu plusieurs vies?
J'habite à côté, en fait, je connaissais très bien l'histoire du lieu. Par hasard, j'apprends qu'il est fermé, abandonné depuis 5 ans, enfin, ou quasi abandonné, qu'aucun projet ne voit le jour. Et puis, bah, comme ça, on le visite avec l'architecte et... Voilà, c'est quelque chose qui est plus fort que soi, comme, je sais pas, quand on improvise quelque chose, on sait pas...
On tombe amoureux, quoi.
Oui, voilà, exactement, c'est une bonne image aussi. On sait pas pourquoi. Et le résultat de tout ça, c'est une aventure humaine, d'abord extraordinaire avec le quartier, avec les Parisiens et surtout avec les musiciens, quoi. Tous les jours, c'est une espèce de drogue maintenant, de les retrouver, de vivre tous les jours des moments hautement non déterministe, on va dire. Voilà, surprenant.
Et vous avez réveillé le quartier. Enfin, est-ce que aussi c'est une mission de réveiller un peu le quartier du 15e, qui est un arrondissement assez endormi dans Paris? C'est pas celui auquel on pense pour aller faire la fête.
C'est-à-dire que les gens ici ont autant envie que les autres de sortir, mais il n'y a rien. Donc effectivement, il y a un grand public local, parce que les gens sont très ouverts, parce que de toute façon, il y a un besoin de spectacle vivant, je crois, de ressentir la musique vivante. Voilà. La musique vivante exprime vraiment, c'est l'expression de la liberté humaine. Moi aussi, je ne sais pas comment le public va réagir, et c'est des moments de vie très très intenses, quoi.
Est-ce qu'on peut regarder avec vous, Raphaël Imbert, des photos qu'il y a? Là, on est toujours à l'étage, au bar. J'aime bien celle-ci.
Ah, celle-là, elle, c'est génial.
Une manif, ouais, avec des gens qui ont une pancarte avec écrit « We want beer ».
Ouais, on veut de la bière. Période de la prohibition, en fait, hein, de cette période-là, des années 20, justement. Alors, on est vraiment dans un lieu qui raconte cette époque-là et qui est complètement ancré dans notre propre époque aussi. Donc, si on parle de l'âge d'or, de ce qu'on a même appelé l'âge du jazz, c'est celui de Scott Fitzgerald d'un côté, et bah, les Médicis, des jazzmen nord-américains, c'est Al Capone, c'est les mafieux,
mafia.
C'est la mafia et tout ça. Et donc, avec cette période de prohibition qui a été une période d'interdiction, forcément, qui dit interdiction, dit réaction. C'est l'art de la transgression, c'est l'art d'être bien dans une règle tout en la transgressant. Et cette image, elle est parfaitement... On revendique de vouloir de la bière, on est à une époque où on l'interdit. Tout ça sous l'influence des ligues de vertu les plus abominables, on va dire, qui d'ailleurs ont provoqué quelque chose d'évident, c'est qu'en fait, la consommation d'alcool n'avait jamais été aussi importante qu'à l'époque.
Peut-être que ça a été fait pour...
Sans doute, ça a été fait pour, c'était une économie,
ouais,
parallèle,
et
ça a été. Voilà, on veut des lieux clandestins, il faut les faire vivre, donc on veut des musiciens, et il faut des musiciens qui représentent cette nouvelle musique, cet art nouveau. On a fait une très belle soirée sur Louis Armstrong. Je parle du chapitre caché de cette autobiographie où c'est une allégorie et une mise en avant des bienfaits de la marijuana par Louis Armstrong. On verra plutôt ça du côté de Bob Marley. C'est assez marrant et assez intéressant de voir ces arguments-là transgressifs de la part de quelqu'un qui a toujours été considéré comme quelqu'un d'assez gentil, alors qu'en fait c'était un vrai militant.
Louis Armstrong était à Paris il y a quelques jours.
Que pense-t-il de la vieille querelle du jazz moderne?
What is modern jazz?
Qu'est-ce que le jazz moderne?
You tell me, I don't know. I just try to play good music. I ain't care, but I mean, if I go buy a record.
Je ne sais pas ce que c'est le jazz moderne, je m'en moque. Ce qui compte, c'est la musique, mon genre de musique.
I love the music and the sound, monsieur.
Louis Armstrong, en choisissant des thèmes à succès, n'avez-vous pas l'impression de faire du jazz une musique commerciale?
All music is jazz music. Every tune that's played in jazz, if you want to look at it that way, was commercial, and the jazz musicians turned it in by playing.
Toutes les musiques peuvent être du jazz. Même l'air le plus commercial peut devenir du bon jazz.
I love my baby, ba da 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 da. Everything was popular one time or other.
Ça dépend de ce que vous y mettez dedans.
It's a matter of mind of commercial. It's what you put in a tune here. No commercial. All tunes are jazz.
Guillaume nous laisse.
Au revoir Guillaume, merci.
C'est génial, hein.
On descend. Alors vous êtes parmi le mur de pochettes de disques, ouais. Raphaël Imbert, là, avec votre album Music is My Hope, entre Miles Davis et Thelonious Monk, c'est pas mal. Au-dessus de vous, Duke Ellington. En dessous, Duke Ellington et Louis Armstrong. Parts Blues.
Ouais.
Vous êtes bien entouré, hein.
Je suis très bien entouré. Et en fait, c'est assez logique. La pochette de Thelonious Monk, c'est underground. C'est un vaste bordel. C'est comme si Thelonious Monk était un résistant dans les maquis du Vercors, en quelque sorte dans une grange. Et je me suis beaucoup inspiré de cette pochette pour faire la mienne de Music Is My Hope. J'aime bien l'ouverture avec Paul Robeson qui dit Othello et qui arrive sur Pitbox Soldiers, qui est un morceau qui est une dérive justement, parce que ça a été écrit par des prisonniers politiques dans un premier camp nazi. C'est le premier chant antifasciste. Et on le joue comme un blues en fait. Donc moi je pense que ça peut être pas mal de faire écouter et Paul Robeson et un chant antifasciste.
Soft you!
Vous écoutez À la dérive avec Raphaël Imbert et Aurélie Sfez sur Radio Nova.
A word or two before you go.
Nova.
I have done the state some service, and they know it. No more of that. I pray you in your letters, when you shall these unlucky deeds relate, speak of me as I am. Nothing extenuate, nor set down aught in malice. Then must you speak of one that loved full wisely, but too well. Of one not easily jealous, but being wrought, perplexed in the extreme. One whose subdued eyes, all being unused to the melting, drop tears as fast as the Arabian trees, their medicinal cotton. Set you down this, and say besides, that in Aleppo once, where a malignant and a turbaned Turk beat a Venetian and traduced the state, I took by the throat the damned heathen dog and smote him thus.
Far and wide as the eye can wander, heath and bog are everywhere. Not a bird sings out to cheer us. Oaks are
sur la pochette de Thelonious Monk Underground. On y voit un drapeau nazi, de l'alcool, il fume une clope, il a une kalachnikov, une casquette à l'envers, de la dynamite, non mais c'est explosif, hein. Il tient un nazi, un ancien SS en otage, ficelé sur une chaise. Il y a écrit « Vive la France » sur voilà. Le mur, des bouteilles de pinard. J'adore la référence à la peinture et à la nature morte avec ses raisins, ses tomates, ce fromage et des grenades prêtes à exploser et un flingue.
Tout à fait, au premier plan en fait. Hein, vraiment.
Nature morte, picturale.
Exactement, voilà, c'est ça, c'est ça.
Et vous parlez de la marijuana, vous parlez de la drogue. Le nombre de musiciens qui se sont cramés avec la drogue, c'est incroyable.
Bah, avec la drogue, avec l'alcool, avec toutes sortes de choses. Moi, j'ai plusieurs réflexions là-dessus, d'autant que moi je ne suis pas du tout un consommateur. J'aime beaucoup lire Louis Armstrong sur ce sujet. Et c'est vrai que ce sujet-là est très important parce qu'on l'a beaucoup mis en avant aussi.
Vous en parlez dans votre bouquin.
Bah, et en fait, je constate qu'il est intéressant de voir ce qu'on a mis en avant et ce qu'on a un petit peu caché en fait dans ce registre-là. Qu'est-ce qu'on fait pour tenir le coup ? Faut imaginer, moi j'ai étudié les roadbooks des tournées, des jazzman, leur vie. Ils jouent de 6h du soir à 6h du matin, quasiment 365 jours par an. Et donc, il faut tenir le coup. Alors, l'alcool a été une solution. Moi, je me rappelle la première génération des gens que j'ai pu rencontrer, interviewer, que j'ai pu côtoyer. Il y avait une vraie présence de l'alcool comme élément, comme dopage, en fait. Hein, voilà.
Et puis, si tu bois pas, ça peut pas marcher. En fait, ça va avec la mythologie du jazz.
Fumer aussi va avec la mythologie du jazz. Et la moyenne d'âge d'un jazzman américain dans les années 40, ça dépasse pas les 40 ans. Ouais, et pendant très longtemps, ça va être ça. Et d'ailleurs, encore maintenant.
C'est comme au Moyen Âge.
Ah, oui, c'est ça. Ils ont une espérance de vie. Il y a eu des études de médecine, des colloques là-dessus, parce que c'est quand même assez... Alors après, il y a des miracles. Regardez Roy Haynes, qui a 96 ans maintenant, qui a quand même connu cette époque-là. Ce qui, pour moi, était important, c'était de dire aussi que chez les mêmes musiciens, vous voyez, on est entouré de plein de figures de jazzman là, dans l'escalier du Bal Blomé. On a Miles Davis, on a Bill Holiday, on a Elvin Jones, on a John Coltrane. Ils ont tous eu une histoire avec ces addictions-là. Mais on découvre aussi qu'ils sont des gens qui sont des intellectuels, des gens d'une haute spiritualité. Ce qui m'a beaucoup gêné dans mes recherches sur le jazz, c'est que quand on découvre quelque chose, quand on voit qu'il y a par exemple ce problème de drogue, ça ne peut pas être autre chose. Et on va faire du jazzman une épave, en fait.
J'aime beaucoup dans votre ouvrage qui s'appelle « Jazz suprême, initié, mystique et prophète », j'aime bien toutes les définitions que vous essayez de faire du jazz à travers la définition des autres jazzman, des journalistes ou des musicologues. On n'arrive pas à définir le jazz indéfinissable. C'est finalement la définition du jazz serait qu'il ne se définit pas.
Oui, exactement ça. Moi j'ai ma propre définition. Mais c'est vrai que c'est la seule musique... Je veux dire, quel autre musicien peut se targuer de jouer une musique dont le nom, on ne connaît pas l'étymologie et on ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Voilà.
On a plusieurs idées du nom, chaque fois chacun y va de sa version. J'aime beaucoup la définition de Duke Ellington quand on lui demande qu'est-ce que le jazz. En gros, le jazz a toujours été comme ce genre de type que vous n'aimeriez pas que votre fille fréquente.
C'est tellement vrai.
Mais franchement.
Moi, j'ai envie de, quand même aussi de m'attacher à ceux qui ne sont pas rentrés dedans. C'est aussi, d'ailleurs, pour une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup étudié dans mon livre la conversion à l'islam, par exemple, qui était un moyen pour beaucoup de Noirs américains de sortir de ce cliché-là.
Pour se sauver.
C'est un moyen de se protéger. Voilà, c'est un moyen de se protéger, ne serait-ce que symboliquement. De dire, je fais partie d'une minorité religieuse, d'un clan et tout ça, d'une tribu, c'est quelque chose de très important aux États-Unis. Donc, on le montre, mais ça apporte aussi, et ça, c'est clairement dit par des gens comme Ahmad Jamal ou Youssef Latif, ça apporte une hygiène de vie. Que, d'une certaine manière, il y a deux moyens de survivre à la vie d'un jazzman, c'est soit se droguer pour tenir le coup et mourir
on
à 40 ans.
Pas.
Voilà. Bah, John Coltrane, qui est derrière nous, qui a réussi à se débarrasser de la drogue avec une haute dimension humaniste et spirituelle
ça
et mystique,
mais
il est quand même mort de ça. Il est quand même mort des conséquences de cette consommation-là. Il n'y a qu'à voir Charlie Parker. Alors ça, on peut trouver très émouvant l'Overman, quand il est complètement en train d'essayer de s'en sortir en prenant des substituts, il est dans un état lamentable. On peut trouver ça touchant. Moi, je trouve ça dramatique. Hein. D'une certaine manière, il n'est jamais aussi bon que quand il est en errance totale. Alors, errance et dérive, c'est pas la même chose. On peut être à la dérive. Un artiste est à la dérive, un jazzman dérive en permanence. L'errance, c'est autre chose. Très new-yorkais.
Des briques rouges.
Une partie du bâtiment est classée monument historique, pas à cause de l'histoire du jazz et afro-antillaise du lieu, mais parce que c'est le bâtiment qui est sur le côté est un des rares bâtiments 18e du 15e, à l'époque où c'était la grande campagne en fait ici. Année 20, ici, c'est Broadway, c'est la 52e rue, c'est-à-dire que tout le monde vient ici.
Chante, ça fait des claquettes, ça danse.
C'est une vie incroyable, ça vit toute la nuit. Il y a eu des histoires de crimes assez incroyables, il y avait des histoires de mœurs aussi, parce que c'était l'endroit où la bourgeoisie parisienne venait s'encanailler avec les Antillais et les Afro-Américains. Donc il y avait une sorte de symbole un peu transgressif sexuel entre les communautés. Donc c'est un drôle de lieu, et on est dans un quartier, vous l'avez dit tout à l'heure avec Guillaume, qui est maintenant d'une tranquillité absolument presque morbide à certains moments.
Monacal,
voilà, cherchez le mot. Moi, j'aime beaucoup le quartier. Moi, je suis un fan de Brancillon, du marché aux livres, des théâtres qu'il y a eu, des résidences d'artistes qu'il y a eu. Justement, certains artistes cherchaient à la fois ici, je pense dans les années 20, ils cherchaient à la fois le côté presque campagne et la vie intellectuelle qui était débordante. Voilà.
Le 15e arrondissement, c'est un peu le mal aimé, le mal connu des arrondissements parisiens.
Le nombre de fois où je dis à des copains qui sont à Bastille ou dans le 12e, et quand je leur dis que je joue dans le 15e arrondissement, ils me regardent comme si je jouais en Ouzbékistan. C'est hallucinant, vraiment. c'est effectivement une musique qui peut très facilement être une musique de l'entre-soi. Si on fait pas gaffe, c'est une musique de l'entre-soi. Après tout, c'est génial, on se retrouve sur une scène, on se connaît pas, on joue, on est content. Faut quand même toujours se poser la question, c'est pas jouer pour le public, mais le jazz s'est créé avec le public. Ça, par exemple avec le free jazz, moi je viens du free jazz. Je suis un fan d'Albert Ehler, de Ornette Coleman. À chaque séance ici, je veux trouver, même si je parle de New Orleans, de pop, de trucs, trouver le lien pour leur expliquer que ça fait partie de l'histoire de cette musique et qu'en fait ils aiment ça.
Oui, parce que le free jazz ça fait peur.
Voilà.
Alors par exemple, moi mon préféré c'est John Zorn. Ça va être très bizarre parce qu'il crée des ponts avec les musiques noise et les musiques expérimentales.
Bien sûr.
Dans la dernière, on va dire, la dernière danse du jazz.
Ouais.
Ça peut faire peur.
Ah, ça peut faire peur, oui. Mais enfin, moi je rappelle aux gens qui sont là, à chaque fois j'adore ce moment-là où je dis bon, maintenant c'est le moment free jazz du concert et je vois les gens. Ah bah vous voyez, vous avez peur, hein, oui. Alors n'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II, vous allez voir, vous allez aimer le free jazz. Ah non, non, alors j'ai toujours quelqu'un qui râle dans la salle. Je dis, écoutez, en fait dans les années 70, le free jazz était populaire. À Château-Vallon, il y avait 6000 personnes qui allaient voir Michel Portal ou Archie Shepp. John Coltrane a vendu 500 000 exemplaires de Love Supreme. C'est quand même les musiciens les plus samplés par les rappeurs à l'heure actuelle, c'est quand même
donc
hallucinant.
Le hip-hop, voilà, les timbres de la musique électronique.
Chez Sonra, par exemple, Sonra est un puits, une mine d'or pour tous ces...
La boucle, la répétition.
Exactement, ça c'est Coltrane. Premier cas, même Steve Reich le dit. Steve Reich a la révélation de la boucle et du minimalisme en écoutant Coltrane en club.
My Favorite
Six. Ah bah, vous écoutez l'original.
Boucle,
quoi. C'est un morceau de 13 minutes dans lequel Michael Tyner, le pianiste, joue deux accords pendant 13 minutes.
On bouge ?
Allez, on bouge.
Vous serez d'accord pour faire du saxophone dans la rue ?
Ah oui, toujours. Hein.
Moi, est-ce que vous marchez en jouant ?
Ça peut m'arriver. Moi, j'ai pris le soprano qui est assez léger. Par contre, on risque d'avoir des plaintes. Hein.
La dérive avec Aurélie Sfez.
Et avec Raphaël Imbert et les fantômes du bal Blomet, on a continué à déambuler en haut, en bas, dans les coursives. Et quand on a revu la lumière, il a pris son saxophone pour jouer dans la rue. C'est aussi dans les rues que le jazz est né. Raphaël joue partout et cherche la part spirituelle du jazz. Alors on est allé voir du côté des francs-maçons pour scruter les symboles et partir dans l'espace avec Sun Ra, John Zorn, Albert Ehler. On a fini par faire danser les abeilles sur la péniche écolo de Gérard, au milieu de la Seine. À la dérive, ça continue, le jazz est libre et l'esprit suprême. Raphaël Imbert, il y a des fantômes ici ?
Oui.
Vous les sentez, les fantômes, les lieux ont une âme ?
Je pense que de toute façon, ne serait-ce que par le regard des gens qui font le lieu, il y a forcément des fantômes. Des fantômes ou l'esprit d'un lieu. Je crois beaucoup en l'esprit du lieu, en fait. Et ici, même s'il a été complètement rénové, il a été fait tellement dans l'esprit de ce que ça a été, que l'esprit reste.
J'aime bien cette sortie de secours, elle est très très belle.
Ah ben là, c'est resté dans son jus. Il y a eu plein d'essais du street artiste, justement à partir d'œuvres de l'époque. Et là, on a l'escalier en bas, il y a encore un étage au sous-sol. On est vraiment au cœur des sous-sols de Paris où il y a les loges des musiciens.
Non mais là, cette petite fresque, là, ça fait vraiment presque peinture rupestre.
Je pense que c'est d'après une peinture de Degas ou des choses comme ça, sur les artistes de cirque et notamment les artistes afro-américains.
C'est quoi le bal nègre aussi ? C'est la fierté, la négritude dont parlait Aimé Césaire ?
Alors oui, c'est le début de cela, en fait. C'est le début d'une conscience qui, au départ, part. Et ça, je crois que, par exemple, le jazz, c'est ça. On part d'un truc de divertissement dans lequel on va instiller l'idée d'une fierté, l'idée de Duke Ellington et l'exemple type de ce genre de choses. Quand Duke Ellington commence à parler de fierté noire, de beauté noire, il le fait dans un contexte où les choses sont beaucoup plus compliquées. Le jazz et le swing, c'est ça, en fait. Il y a vraiment cette idée de transgression. C'est un côté initiatique, justement, de ce côté-là, de dire les choses selon un second degré, selon une façon dont on peut être compris par certains et pas par d'autres, l'air de rien. Et ça détermine beaucoup la nature de cette musique.
La négritude, c'était, après une longue frustration, c'était la saisie par nous-mêmes de notre passé et, à travers la poésie, à travers l'imaginaire, à travers le roman, à travers les œuvres d'art, était commencée une entreprise de réhabilitation de nos valeurs par nous-mêmes, d'approfondissement de notre passé par nous-mêmes, du réenracinement de nous-mêmes dans une histoire, dans une géographie et dans une culture.
How I love.
J'aime beaucoup la phrase de John Coltrane, « Je pense que la musique peut rendre le monde meilleur. Et si j'en suis capable, je veux le faire. J'aimerais montrer aux gens le divin dans un langage musical qui transcende les mots, je veux parler à leurs âmes. » Vous pensez que la musique rend le monde meilleur ?
Forcément. Je crois qu'il y a beaucoup de désillusions en ce moment. On parle de la musique de façon très pragmatique, très académique, dans les conservatoires et tout ça. Au bout d'un moment, il faut quand même dire, écoutez, si vous ne pensez pas que vous servez à quelque chose, ne serait-ce qu'au départ... provoquer quelque chose de bon pour les gens qui écoutent et qui le pratiquent,
c'est
autre chose. En fait. Qu'on ne vienne pas me raconter autre chose. Je trouve qu'il y a une vraie désillusion dangereuse de ce côté-là. Il y a une raison sociale à tout ça, quand même. Un peu de foi dans le fait que ça puisse servir à quelque chose. Regardez, là, je sens magnifique.
J'adore le piano bleu.
C'est le piano qui était sur le chantier du Balblomé.
Vous en jouez un peu du piano ?
Ah ouais, j'aime bien jouer
un peu. Ah ouais, on va s'en faire un peu... Alléluia.
Moi j'adore jouer des hymnes sur ce genre de piano.
Ce qui me fascine aussi, c'est les musiciens, les pianistes, on va dire les musiciens qui ont écrit pour piano, les musiciens classiques qui ont écrit pour piano, comme Satie, Debussy ou Ravel, qui se sont inspirés. Du jazz.
Et réciproquement. Parce que beaucoup de musiciens de jazz sont inspirés en retour ou même à la même époque de ce que Satie, Ravel, Debussy, Bach aussi, Bach. Qui est une référence absolue.
Alors,
pour
Bach,
tout le monde.
Mais là, j'ai pas cité Bach parce que j'ai parlé de l'autre sens.
C'est le premier jazzman, c'est lui. Cette porosité, elle est importante et ce lieu la raconte. Et en fait, quand j'entends en plus Debussy, on a quelques enregistrements ou des pianos. Ou des rouleaux de piano de Debussy qui jouent le ragtime, c'est du ragtime, c'est vraiment...
C'est Scott Joplin.
Ah, c'est Scott Joplin, voilà. Et Scott Joplin, on sait aussi l'importance qu'a eu pour lui l'étude des musiques classiques de ces musiciens-là. Soleil, sortie de secours du Balblomé.
Est-ce qu'on va où en fait là, Raphaël Lambert ?
C'est un truc un peu spécial. Ouais, autant j'ai assumé mon portrait dans le Balblomé, je vais assumer aussi le fait de vous emmener au musée de la franc-maçonnerie rue Cadet.
Est-ce que vous en êtes ?
Alors moi j'en suis aussi, mais c'est le musée qui est intéressant. Le musée qui est intégré dans le bâtiment, qui est un musée public, et de la façon dont il raconte des choses qui... Ce qui nous paraissent parfois très ésotériques, très complexes, avec toute la... Là, encore une fois, une histoire de mythologie, vous comprenez que les mythologies, moi, ça m'intéresse. Là, on a un lieu
dédié
en fait, à l'histoire de cette confrérie, à l'histoire de ce développement-là intellectuel, que c'est aussi quelque chose d'intrigant, en fait. C'est aussi une autre forme de transgression, hors des sentiers battus. Voilà.
Et c'est comme si on passait d'un temple à l'autre.
Ah, c'est exactement ça. Point. Tout n'est affaire que de temple. Voilà.
Tout n'est affaire
que de temple, de lieu, de comment on crée le sacré aussi, même dans la vie la plus profane, et en restant un bon vivant, en fait.
BMBV.
Voilà, je vous rappelle, donc on vous communiquera l'adresse de ce nouveau parti des musiciens bons vivants.
Et on revient vers vous.
On revient vers vous très rapidement.
Quand vous étiez petit, vous aimiez les insectes. Vous alliez dans la forêt.
Tout le temps. Ça.
Pour étudier les insectes. Quel est le lien vous faites entre cette passion de la forêt, de la nature, de chercher comme ça des espèces, des insectes, et votre vie d'aujourd'hui?
Je continue toujours à chercher la petite bête. C'est ça la définition. Quand j'ai commencé à faire du jazz, je voulais comprendre cette musique et j'ai tout de suite cherché la petite bête. Il y a des trucs qui, dans l'histoire de cette musique telle qu'elle était racontée, il y a des trucs qui n'allaient pas, des trucs qui ne me convenaient pas. Je dis, mais non, mais c'est pas totalement. C'est pas que c'est pas une question de fake news ou pas du tout. On oriente forcément les façons. Il y a une histoire de l'histoire. C'est pour ça que je ne suis pas un musicologue du jazz, je suis un entomologiste, moi, plutôt.
Vous cherchez aussi des espèces rares, c'est-à-dire des espèces de réflexion et des espaces de réflexion qui n'ont pas été explorés.
Exactement. D'où la prochaine étape. Et si on veut comprendre énormément d'aspects de ce que veut dire cette musique et cette culture, parce que le jazz n'est pas qu'une musique, c'est une façon de l'état d'esprit, l'endroit où on va aller pourtant peut paraître très normé, est malgré tout un endroit important, et on l'a trop longtemps mis à l'écart dans l'histoire. Imaginez qu'un musicologue en classique passe à côté de cela.
À côté de Mozart.
Ben, en fait, c'est ce qui s'est passé.
François Mitterrand.
Alors qu'il n'était pas maçon. Justement, c'est un fantasme, c'est fait partie du mythe.
Alors là, vous nous en apprenez, parce que tout le monde pense que François Mitterrand était franc-maçon.
Non, François Mitterrand n'avait absolument pas besoin d'être franc-maçon.
Jacques Attali
Non plus, pas que je sache.
Emmanuel Macron
Non plus, ni Barack Obama.
Alors aucun politique n'est franc-maçon?
Pas des politiques qui arrivent à ce niveau de pouvoir, en fait, paradoxalement. Par exemple, dans la 5e République, il n'y a priori aucun de nos présidents n'a été maçon. C'est dans le livre, j'ai pris beaucoup de temps à y réfléchir aux mots. C'est né d'une circonstance noire, et ce sera toujours lié à cela. Ça devient un acte universel, c'est-à-dire que c'est joué à peu près partout. Ça peut être identifié et identifiable par tous, et notamment dans le cadre des luttes, justement. C'est-à-dire que la communauté juive américaine devient très rapidement l'autre communauté de la création du jazz. Les minorités amérindiennes, irlandaises, celtes, allemande, s'empare.
Spanish
après, évidemment, très rapidement, s'empare de ce phénomène, qui est un phénomène créole dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que moi j'ai appris en Louisiane que le mot créole désignait avant tout, au niveau sociologique et linguistique, ceux qui ne parlent pas anglais. Pour moi, en tant que Français qui suis né en Provence, blanc, de famille plutôt catho ou anticléricale, mais très française, c'est très important de constater une chose pour moi, c'est que mes héros sont noirs ou juifs. Il y a tous les problèmes de l'appropriation culturelle, ce sont des réalités. Moi, pour la première fois, d'ailleurs, dans le cadre du bal Blomet, il y a eu une polémique autour du nom et tout ça.
Il y a eu une polémique, il y a des gens qui ont dit « mais c'est insupportable, on ne peut pas l'appeler le bal nègre ».
Qu'il y ait des réactions là-dessus, c'est parfaitement normal. Alors moi, j'ai juste envie que tout le monde connaisse l'histoire. C'est le seul moment, et la première fois, mais ce ne sera pas la dernière, qu'on m'a fait comprendre que je n'étais pas légitime pour jouer cette musique. Ça me choque, mais en même temps, je peux comprendre.
Il y a eu des gens qui vous ont dit...
Mais pourquoi? Regardez, en plus,
vous faites de l'appropriation.
Vous engagez des blancs pour faire une musique de noir. Je dis, et en fait, c'est vrai. Comme toutes les musiques américaines, la country music est née d'une circonstance noire, faut jamais l'oublier, même si on a voulu l'extraire.
Dire que vous n'avez pas le droit de jouer une musique qui a été inventée par les Noirs, ce serait dire à un danseur classique noir, vous n'avez pas le droit de représenter le prince Igor.
Eh ben c'est le retour de bâton. C'est justement, dans les débats que j'ai pu avoir là-dessus, c'est dire, vous savez, à Kinshasa, il y a un orchestre symphonique qui joue remarquablement bien, en Afrique du Sud aussi, des orchestres qui jouent la musique classique et qui aiment ça. Les jazzman étaient noirs, mais étaient tous musiciens classiques. Jerry Roll Morton, Fats Waller jouait Bach, c'était leur base. Moi je suis un autodidacte, j'ai appris le saxophone tout seul. Donc d'un autre côté, ça me fait pas peur non plus, ces ambivalences-là, ces questions-là. Ces questions sont importantes. On peut pas passer à côté en permanence, ça c'est sûr.
Est-ce que vous pensez que le jazz peut réconcilier ces divisions?
C'est pas le jazz, c'est le swing. Qu'est-ce qu'invente justement cette circonstance noire? C'est pas tant le jazz que le swing. C'est-à-dire l'idée du balancement. L'idée de pouvoir être malgré tout, de vivre à une époque qui est en train de revenir, d'une certaine manière, qui est une époque où on demande à choisir son camp contre notre propre éthique. Vous écoutez À la dérive avec Raphaël Imbert et Aurélie Sfez sur Radio Nova. Vous n'avez pas de plan dans le métro. Alors, c'est la dérive totale. Hein.
C'est quelle rue ?
C'est rue Cadet. Et en fait, c'est tout droit.
Très bien.
On est complètement allé dans le mauvais sens parce qu'on arrive à la Trinité, qui est l'église d'Olivier Messiaen. Je pense qu'il y a un signe.
Bon, on fait demi-tour.
On fait demi-tour. C'est pas grave, non ?
Bah non, c'est normal. On va jouer ici, dans la rue.
C'est un bon moment, si on est au soleil, il fait vraiment chaud et tout. Regarde, je me mets à côté d'une poubelle, on se croirait à la Nouvelle-Orléans. Quoi.
Qu'est-ce que vous pourriez jouer en lien avec le lieu qu'on va aller voir, le musée de la franc-maçonnerie ?
Alors, j'aimerais jouer une mélodie qui est très importante, qui est justement la mélodie des Jazz Funerals. C'est ce qu'on joue avant d'aller au cimetière, dans les processions. À Nouvelle-Orléans, ceux qui organisent ces Jazz Funerals, c'est les sociétés secrètes, justement. Et là, on va dans un lieu, quand même, on s'apprête à rentrer au musée de la franc-maçonnerie. J'espère qu'on en ressortira vivant. Et donc, pour un peu conjurer le sort, je vais vous jouer une musique d'enterrement, évidemment. On se demande toujours où est né le jazz. Il y a ça qui dit dans les bordels, dans les églises, dans les temples, dans les... C'est aussi né dans la rue et c'est très important de se le rappeler. Quoi.
Quelle est cette petite rue jolie ?
Alors, j'adore la rue Cadet. En plus, c'est une rue très piétonne, marchande. Il y a plein de super petits marchés. On arrive à côté de ce bâtiment un peu bizarre.
Il y a un drapeau européen et un drapeau français.
Le drapeau français, le drapeau européen. Et là, donc, on est devant le Grand Orient de France, qui est cette obédience importante, voilà. Historique.
Voilà. Bonjour.
Aurélie. Bienvenue.
Merci beaucoup.
C'est le gang des barbus.
C'est rituel, on ne peut pas faire autrement.
Est-ce qu'il faut avoir une grosse barbe pour être franc-maçon ?
Oui, c'est une condition absolument obligatoire et c'est ce qui pose problème pour accueillir les femmes en franc-maçonnerie d'ailleurs.
Mais les femmes à barbe, ça existe.
Alors il y a quelques femmes à barbe, effectivement.
Et d'ailleurs, il y a un collectif de féministes qui s'appelle La Barbe.
Et qui est venu d'ailleurs nous voir un jour parce qu'en fait, contrairement à nos amis de la Grande Loge, nous avons des sœurs, etc. Mais en fait, l'idée c'était qu'on était encore plus macho parce qu'on avait une excuse, mais on ne voulait pas assumer qu'on était contre.
Enfin, un truc assez complexe. Un petit quota de femmes.
Alors, un petit quota, c'est quand même 3-4 000, c'est pas rien, mais.
Mais c'était pas suffisant.
C'était pas suffisant, non. Alors voilà le musée.
C'est assez sombre. Hein.
Pour faire ressortir la lumière.
Ah ouais, alors
la plus belle vue sur le musée, c'est ici. Alors en dépit des apparences, c'est un musée qui date de 1889. Ces bâtiments ont été bien sûr très abîmés pendant la guerre. En raison des persécutions contre les francs-maçons.
Qu'est-ce qui s'est passé ici exactement pour les francs-maçons ? Pour le Grand Orient ?
Pour les francs-maçons, il ne s'est plus passé grand-chose, qu'ils ont été interdits à partir du premier jour de l'occupation. Et donc, ils étaient à la fois pourchassés par l'occupant nazi et puis par Vichy. Et la maçonnerie était interdite, les locaux ont été confisqués, parfois pillés. Et les francs-maçons... harcelés. Alors, on n'était pas déportés juste parce qu'on était francs-maçons, même si beaucoup ont été déportés parce qu'ils étaient francs-maçons et résistants, ou francs-maçons et juifs, ou francs-maçons et autre chose. Mais on était harcelés, c'est-à-dire qu'on perdait son boulot, on était suivi par la police. Donc voilà, c'est pour nous 4 années noires. Et donc, à part cette interruption de 4 années noires, la franc-maçonnerie est active en France depuis près de 3 siècles.
Raphaël Imbert, le nombre de jazzman francs-maçons. Il y a une liste. Oui. Il y a,
je peux te les dire.
Il y a Duke Ellington.
Duke Ellington, Count Basie, Lionel Hampton, Hubby Blake. C'est là où je reviens à la notion de secret. C'est-à-dire qu'on est fier de sa appartenance, mais on ne fait pas de musique. Il n'y a pas de flûte enchantée du jazz. D'accord. Ce qui pose d'ailleurs de gros problèmes à beaucoup de nos frères et sœurs mélomanes qui aimeraient bien même trouver l'équivalent de Mozart ou de Sibelius. C'est compliqué parce que les Noirs américains estiment que c'est un vrai secret, que la maçonnerie, c'est en fait un secret africain.
Alors si la flûte enchantée est le morceau symphonique de la musique savante, on va dire, la musique classique, quel est le morceau maçonnique du jazz?
Celui qui est le plus significatif, c'est Albert Ayler qui fait une longue improvisation à la cornemuse écossaise. Alors c'est assez bizarre, c'est du free jazz. Hein. Il fait une longue improvisation de 12 minutes à la cornemuse, il rajoute des couches en re-recording et il appelle ça Masonic Inborn. Intrinsèquement maçonnique, on pourrait le traduire. Et je me suis beaucoup interrogé sur ce morceau, qui est vraiment le seul morceau où il y a une référence directe.
En quoi il est maçonnique?
Parce que c'est de la cornemuse écossaise. Et en fait, il y a chez les intellectuels afro-américains et les maçons afro-américains, il y a une sorte de connaissance de l'origine mythologique de la maçonnerie en Écosse.
Je ne sais pas s'il y a ici dans le musée des pièces liées au jazz, par exemple.
Oui, ouais, il y a un document qui me plaît beaucoup, Pierre, c'est ce tableau-là. C'est une carte philosophique contenant la science kabbalistique, numérique et théosophique. Et c'est marrant parce que vous voyez les symboles.
C'est magnifique, ces planches.
Et on parlait de John Zorn. Femme, ouais. Vous voyez les références qu'on peut voir à John Zorn.
Oui, avec les radical Jewish music.
Exactement. Et en fait, dans tout le free jazz, il y a beaucoup de figures qu'on voit ici dans un document qui date du 20e siècle. C'est ça. On voit réinterpréter tous ces symboles. Il y a l'Arche d'Alliance, tous les symboles kabbalistiques, théosophiques et tout ça. En fait, il y a énormément de couvertures d'albums du free jazz afro-américain ou juif américains qui reprennent en fait ces traditions-là.
Et je crois bien que Sun Ra aussi.
Alors Sun Ra.
Dans l'ésotérique totale et dans cette symbolique-là.
Et là, je conseille aux auditeurs de Radio Nona de venir au musée de la franc-maçonnerie. C'est à l'entrée, ils tomberont sur cette magnifique carte philosophique.
Sun Ra, il ne faut pas le dire, voilà, c'est un secret. Mais...
En fait, on dirait une couverture d'album de Sun Ra. C'est ça qui a été frappant et c'est ça que j'avais besoin d'expliquer parce qu'en fait, je ne trouvais pas, moi, dans l'histoire du jazz, d'explication sur cette présence.
Cette esthétique-là
et le fait qu'elle était très présente chez les Noirs américains ou chez John Zorn, ou chez beaucoup d'artistes d'avant-garde. Je suis arrivé dans cette entrée-là. Pour moi, c'est pas directement musical, mais c'est peut-être un des documents les plus musicaux pour moi, parce que j'ai été frappé de voir cette collusion-là.
D'ailleurs, en France, le premier livre maçonnique, c'est un livre de musique et de chansons, publié en 1737 par un grand flûtiste, alors connu des spécialistes, mais un peu oublié, qui s'appelle Jean-Christophe Naudot. Et donc, c'est des chansons de la très vénérable confrérie des francs-maçons. Bonne idée, c'est qu'il y a 3 concertos pour flûte de Naudot qui sont de la musique maçonnique. Alors, c'est pas marqué dessus, mais quand on connaît la scénographie des rituels, des grades d'apprenti, compagnon et maître, c'est tellement cohérent avec la cérémonie maçonnique que je suis sûr que ces 3 concertos pour flûte à bec de Naudot sont maçonniques. Au XVIIIe siècle, la maçonnerie a presque joué parfois le rôle de syndicat professionnel. Par exemple, les musiciens en Europe, c'est une sorte de marché européen, donc ils viennent d'Italie, de Belgique, etc. Et il y avait 2 ou 3 loges à Paris, ou des loges de musiciens, et quand un violoniste ou un flûtiste arrivait de Belgique, d'Italie ou peut-être d'Espagne, s'il était maçon, il venait là et on lui disait « bah oui, le comte d'un tel cherche pour son orchestre un flûtiste, vas-y ». Et donc la maçonnerie a joué un grand rôle dans ces sociétés musicales à la fin du XVIIIe siècle et jusqu'au début du XIXe d'ailleurs.
Pourquoi beaucoup de jazzmen sont maçons? Parce que ça représente une protection de l'ordre du syndicat, ou même ce témoignage assez saisissant de W.C. Handy, qui est l'autoproclamé père du blues, qui en 1910 échappe à un lynchage du Ku Klux Klan parce qu'il est protégé par un fermier blanc qui est lui-même maçon. Alors pourtant, ils ne se reconnaissent pas officiellement, mais en fait, entre frères, ils se reconnaissent, donc il le cache dans sa ferme, l'amène le lendemain au train. Il faut savoir qu'en plus, W.C. Handy était aveugle, donc il a été totalement désarmé face à ce problème-là. On est dans le Mississippi en 1910, les musiciens noirs américains risquaient la mort en permanence. Oui, la maçonnerie représente une forme de protection, en fait, pour les musiciens itinérants, qui sont assez proches des musiciens itinérants du 18e, en fait, de ce côté-là, hein, vraiment. Je passe, je dis qu'il y a quand même des grands barbus hein, dans l'histoire de la maçonnerie.
Je vais y venir à lui. Lui, je l'ai remarqué tout à l'heure. On en parlait.
Alors lui, il est remarquable pour autre chose que sa barbe.
Lui, c'est Gandalf. Hein. C'est vraiment. Quand même.
Alors, oui, c'est peut-être Gandalf, mais c'est surtout Arthur Groussier. Et à part une très belle barbe, c'est le père du Code du Travail. Un maçon très, très actif. Il a été grand maître du Grand Orient à plusieurs reprises. Il a été député pendant plus de 20 ans. Vous l'avez ici, le premier Code du Travail français, et qui est donc publié en 1910.
Mais on est dans un endroit un peu de l'utopie, de la belle utopie en fait. C'est le lieu du dialogue qui permet d'imaginer, de rêver et de peut-être aller vers la concrétisation de certaines choses.
Je crois qu'il va falloir y aller. Ah, Mais avant de nous quitter et de passer au lieu suivant, si on devait faire une dérive maçonnique dans Paris, est-ce que vous pouvez me donner comme ça les lieux rapidement?
Une dérive maçonnique dans Paris. Alors, trois lieux. Au Palais Royal, qui a été un grand lieu maçonnique au XVIIIe siècle. Il y a l'un des rares bâtiments avec une façade maçonnico-ésotérique, c'est le siège du droit humain rue Jules Breton. Et puis, puisqu'on est dans ces jazzman américains qui sont entre la maçonnerie, l'occulte, la mystique, il y a l'extraordinaire façade de la Société théosophique Courtois Rapp, qui est un des rares bâtiments avec une façade ésotérique à Paris. Voilà, moi, c'est les trois points autour de l'initiation que l'on peut trouver à Paris.
Il y a un endroit, moi, je ne sais pas, Pierre, ce que tu en penses, mais moi, l'endroit où j'aime aller avec des amis pour leur montrer ces symboles-là et cette histoire-là entre différents camps politiques, spirituels, religieux, c'est Père Lachaise. Parce que là, on a des tombes maçonniques extraordinaires dans une lecture symbolique qui est assez, assez fabuleuse.
Nova. Did my Lord deliver?
Concorde. Puis on a la tour Eiffel à une demi-heure, l'Assemblée nationale, les Tuileries. Et là, il y a un autre endroit un peu secret que j'aime bien où on va. Voilà, on arrive à la péniche de Gérard.
C'est celle-ci là, avec la pelouse, les plantes.
Transports, zébunettes.
Il a un toit végétal.
Un toit végétal, tout ce genre de choses.
Il y a plein de monde sur sa péniche.
Il y a toujours plein de monde sur sa péniche. En fait, voilà. Bon, on va attendre, attention, l'escalier est assez périlleux.
Le saxophone, il vous a sauvé de quoi ?
De la solitude et de la déprime, je pense, quand même. J'étais assez porté là-dessus et ça a un peu changé ma vie de ce point de vue-là.
Hop, le petit ponton. Ah, ça tangue, hein, ça y est.
Super. Et on débarque en pleine réunion, en fait.
Oui, dans la panade totale. Quoi.
Ah bon ?
Oui, non, parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de réunions. Il y a le Bourget, il y a les handicapés, des gens qui viennent installer des capteurs de microparticules. Alors, je vais être la première péniche à capter l'état de l'air à Paris, ouais, en temps réel.
Vous allez faire des évaluations de pollution,
oui, voilà, absolument.
De particules fines.
Et la péniche va se peindre, se transformer en rouge, en vert, en bleu. Suivant la pollution. Quel c'est bien, non ?
Quand elle sera rouge pendant une semaine.
Ah oui, il faudra faire gaffe, quoi. Il faudra mettre des mouchoirs sur la gueule. Hein.
Ouais, ouais, vous allez être le phare, le phare et le signal de la pollution.
C'est déjà le cas. On est autonome. Je récupère des batteries lithium-ion de Renault d'occasion. Je prolonge leur vie pendant 10 ans. Mon éolienne, quand il y a du vent, il n'y a pas de vent aujourd'hui, mais il y a des panneaux solaires. Là, vous êtes en autonome, pas de complexe.
On est en pays autonome.
Vous pouvez allumer la clim, ça ne coûte rien, c'est le soleil qui paye.
Vous avez même un mur végétal à l'intérieur de la pelouse.
Alors là, c'est de l'eau de la Seine que je récupère.
Ça fait des belles plantes. Hein.
C'est génial, hein, c'est beau. Et puis, on a des tomates, des concombres, on a un peu de tout. On fait de la map. Et puis, je vais vous faire voir mes abeilles. Vous venez?
Ah oui.
T'as des abeilles? Ah, mais ça, je savais pas. Tu vois, il y a tout un truc nouveau ici.
Je m'appelle Gérard Felver. Donc, mon chargeur qui débite mes panneaux solaires, qui alimente mes batteries, et j'alimente comme ça la péniche. Donc, tout a gagné. Et si chacun s'équipait comme ça, du jour au lendemain, on arrête toutes les centrales à charbon et au fioul.
Et ce serait possible individuellement pour chacun, tu penses?
Ben oui, dans chaque immeuble, tu installes sur le toit des panneaux solaires, tu stockes avec des batteries d'occasion comme je fais, ça coûte pas cher. Pour éviter le pic de consommation qui a lieu à 18h en hiver, eh ben tu fonctionnes sur les batteries pendant 2 ou 3 heures. Et là, instantanément, tu arrêtes toutes les centrales polluantes.
C'est génial. Alors pourquoi on ne le fait pas?
Parce qu'on est con.
Alors attendez. Ah oui, attends, c'est par là.
Alors là, c'est mes copines.
Oh,
voilà, les abeilles. Donc elles sont vachement actives et elles sont gentilles de chez gentilles.
Elles font du miel?
Elles font du miel, 4-5 kilos par an à peu près. Donc vous aurez droit à votre pot de miel la semaine prochaine.
Bien, je pourrais bien le chercher.
Oui, absolument.
Il est bon, le miel d'ici?
Extrêmement. Elles vont contre le vent pour pouvoir revenir en pleine charge. Et là, elles vont au Jardin des Tuileries, à l'Assemblée nationale.
Au Champ de Mars,
etc.
Elles vont butiner dans des beaux quartiers. Hein.
Ah, c'est chic. Hein. Ouais, c'est les abeilles du 7e et du 8e. Non, c'est impeccable. Pas n'importe qui. Hein.
Alors, on sait que les abeilles aiment danser. Est-ce que les abeilles aiment la musique, à votre avis?
Alors, je crois, parce que de temps en temps, je me mets avec ma petite guitare près de la ruche et elle ne me pique pas. Donc, je pense qu'elles doivent aimer, quoi. Il y a les chats qui viennent me rejoindre aussi, pareil.
Vous me voyez venir? Je veux bien que vous preniez votre petite guitare.
Oui.
Ça serait trop sympa.
Bon, d'accord. Okay.
Pour les abeilles. C'est pas pour nous, hein, c'est pour les abeilles.
Pour les abeilles.
Peut-être même vous pouvez faire un duo guitare-saxophone. Vous l'avez déjà fait?
Non, je n'ai pas fait. On va aller plutôt là-bas. Regardez, c'est vachement beau. Ça fleurit. Il y a plein de fleurs.
Là, c'est des fraises ou des framboises?
Il y a des fraises, oui. Et c'est magnifique. Et...
C'est un peu le maquis, c'est un peu une mini garrigue.
Ouais, on dirait un peu la garrigue, un petit côté garrigue méditerranéen ou lande aussi, un petit peu de lande.
Est-ce que vous êtes à la dérive, Gérard? Vous êtes sur une péniche?
Comment?
Est-ce que vous êtes à la dérive, Gérard?
Dans ma tête, oui, complet.
Il a sorti la guitare, Gérard.
T'as Gérard qui a sorti la guitare, ça, alors, tu vois, c'est une surprise aussi.
Et voilà, sur la terrasse. C'est magnifique, hein, cette
vue. C'est incroyable ici, hein, quand même. Hein.
Ce serait tellement bien qu'on retrouve la nature dans Paris. On aurait le beurre et l'argent du beurre.
Exactement, et le reste.
Et on aime beaucoup la crémière.
On adore la crémière.
Alors, ça commence comment? Ça commence que si j'ai l'air de ne pas en avoir l'air, si j'ai l'air d'avoir la tête en l'air, c'est que je ne veux pas faire l'affaire de ceux qui veulent me pomper l'air. Alors, je prends l'air. Ça a toujours été ma manière de jeter mon regard sur la terre, de jeter ma bouteille à la mer.
À la dérive, c'est la dernière de la saison. Oh, mais on se retrouve en septembre. Ah, le livre de Raphaël Imbert s'appelle Jazz Suprême, Initié, Mystique et Prophète. Et son dernier album, c'est Music is My Hope. À la dérive, c'est Aurélie Suez au micro, Bertrand Chompton aux manettes et en podcast sur nova.fr. Bonne dérive à toutes et à tous, partout cet été. Et nous, on se retrouve à la rentrée sur Nova.